2, les versets 23 à 33. Nous allons écouter ensemble la parole de Dieu.
Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. « Maître, Moïse a dit, « Si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. » Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et, comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eue? Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappé de l'enseignement de Jésus.
Merci. Jésus-Christ comprenait la parole de Dieu et la puissance de Dieu. On va aller ensemble dans un mot de prière, si vous le voulez bien. Eh bien, Père éternel, tu parles dans ta parole de choses que nous ne comprenons pas, qui nous dépassent. Notre vie, Seigneur, ici-bas, n'est que vapeur. Nous appliquons pendant toute notre vie, Seigneur, à comprendre comment vivre, comment être sage, comment orienter notre vie, comment construire, comment aimer, comment élever des enfants. Eh bien, franchement, nous sommes souvent dépassés, Seigneur, dépassés par la vie. Comment traverser les épreuves? Comment aimer celui qui nous fait du mal? Comment ne pas se décourager? Et si souvent, Seigneur, nous sommes dépassés. Comment prétendre, Père, que nous comprenons la parole de Dieu et que nous comprenons la puissance de Dieu. Alors que si souvent, pour être franc, j'ai le sentiment de ne pas me comprendre moi-même, Seigneur. Père, nous sommes assemblés ce matin pour entendre ta parole, mais surtout pour rencontrer Jésus-Christ, qui comprenait les Écritures et qui comprenait la puissance de Dieu. Viens nous révéler Christ ce matin. Viens nous révéler sa personne et sa grandeur. Viens nous rassurer par ses paroles, Seigneur. Viens nous convaincre, Seigneur, de nous confier en lui. Pour tout ce que nous ne comprenons pas et pour la grande traversée qui nous attend, Seigneur, bientôt. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen. Jésus comprenait les Saintes Écritures et il comprenait la puissance de Dieu. Nous sommes dans la dernière semaine avant la fin du ministère terrestre de Jésus, avant l'arrestation de Jésus, avant sa crucifixion. La tension entre les ennemis de Jésus, des ennemis politiques, des ennemis religieux de Jésus, va en augmentant et le sommet de ça, ça va être le moment de son arrestation et de sa crucifixion. La période des questions tire à sa fin. Comme on en voit au Parlement, la période des questions tire à sa fin. Les attaques vicieuses de ses ennemis, la joute verbale entre Jésus et ses ennemis tire à sa fin. La semaine prochaine, ça va se terminer pour nous dans Matthieu. Ils vont oser poser une dernière question, puis Jésus leur posera une question à son tour et ils n'oseront plus lui poser de questions. Maintenant, cette semaine, nous sommes avec les Sadducéens. C'est des personnages un peu mystérieux parce qu'ils sont des Juifs et nous avons peu d'informations sur eux. Les Sadducéens étaient des matérialistes, comme certaines personnes dans notre société. Et quand je dis matérialiste, je ne suis pas en train de parler d'être attaché aux biens matériels. C'est une conséquence de ce qu'ils croyaient, c'est certainement vrai. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que c'était des gens qui ne croyaient qu'à la vie matérielle. Ils croyaient que nous sommes matière sans immortalité. Les Sadducéens croyaient seulement ce qu'ils voyaient, l'être humain est matière, et lorsque l'être humain meurt, puisque nous ne sommes que matière, la vie s'arrête là. C'est ce que les Sadducéens croyaient, ils étaient des matérialistes. Inévitablement, ça veut peut-être dire que tu t'attaches aux choses matérielles aussi, mais ce n'est pas dans ce sens-là que je l'utilise. Ils ne croyaient pas à l'immortalité, ils croyaient que l'homme naît et meurt, voilà tout et c'est fini. Un historien juif nommé Joseph, pas l'époux de Marie, d'accord? Mais un historien, il y avait d'autres Joseph chez les Juifs, il y en a encore aujourd'hui plusieurs. Mais un historien bien connu, qui est réputé, respecté par les chrétiens, les juifs, les non-chrétiens, comme une référence de l'époque, a écrit vers la fin du 1er siècle concernant les Sadducéens. Et comme on a peu d'informations sur ce mouvement-là, ces informations sont importantes. Voici ce qu'il écrit dans deux de ses écrits, je vais en citer deux. Dans un d'eux, il dit, en parlant des Sadducéens, qu'ils rejetaient l'immortalité de l'âme et, conséquemment, toute idée de punition ou de récompense éternelle. Ce qu'on appelle dans les Écritures l'Hadès, ils ne croyaient pas à cela. Ils rejetaient l'idée de l'immortalité de l'âme, d'accord? Dans un autre de ses écrits, toujours cet historien juif, Joseph, va dire qu'il disait que l'âme meurt avec le corps. Voici ce qu'on sait sur les Sadducéens. On sait bien peu de choses sur eux. Ils ne croyaient pas non plus aux anges. Et Jésus va faire exprès pour parler des anges en parlant avec eux. Ils avaient une vision des Écritures qui était particulière. Ils acceptaient certains passages de l'Ancien Testament, mais pour d'autres passages, ils n'y reconnaissaient pas la même autorité. Encore aujourd'hui, on voit des mouvements qui vont des fois se réclamer du christianisme, mais qui vont accorder certaines autorités à certains passages et moins d'autorité à d'autres passages des Saintes Écritures. C'était le cas avec les Sadducéens. Ils accordaient beaucoup d'importance au Pentateuch, les cinq premiers livres de l'Ancien Testament. D'accord? Ils accordaient énormément d'importance à ces passages-là comme venant de Dieu. D'autres passages, ils étaient moins sûrs. Et donc, ça leur donnait une théologie, une compréhension de Dieu qui était limitée, qui était particulière. Maintenant, on connaît tous, probablement, des gens, des personnes autour de nous qui sont des matérialistes, comme les Sadducéens. Et en vivant au Québec, bien franchement, aujourd'hui, on peut avoir l'impression qu'il y a beaucoup de monde sur la Terre qui sont matérialistes. C'est complètement faux. La vaste majorité des gens sur la Terre, même des gens au Québec, et il y a des sondages qui sortent à chaque année là-dessus, la majorité des Québécois croient dans une forme ou une autre d'immortalité de l'être humain. Mais sortez du Québec, sortez un petit peu de l'Occident, voyagez un peu sur la Terre, sortons de ce nombril du monde qui est l'Occident, et la très grande majorité des gens sur la Terre croient dans une forme ou une autre d'immortalité pour l'être humain. Ça, c'est la réalité aujourd'hui, en 2010. Les matérialistes sur la Terre, ceux qui croient que nous ne sommes que matière, sont infimes. Ils sont vraiment minoritaires sur la Terre. Et pensez à toutes les grandes religions, mais pensez à plein de gens ici, même en Occident, qui se réclament d'aucune grande religion, qui croient pourtant à une espèce d'éternité. J'ai cité deux, trois fois, ça m'avait frappé, Gilles Vigneault, qui croit qu'il y a quelque chose d'éternel et il repose son raisonnement sur le fait qu'il y a tellement de choses qui sont belles, l'être humain est tellement beau, ça ne se peut pas qu'il n'ait pas d'âme. Alors, ils croient à l'immortalité, d'une manière ou d'une autre. D'accord? Les Amérindiens, ici, croient à une forme d'immortalité. Mais on a l'impression, en suivant les médias, souvent, ici, que la majorité des gens sont matérialistes et croient que nous sommes des rats sur un grand navire qui mourront et tout s'arrête là. Ce n'est pas le cas. La majorité des gens sur la Terre croient dans une forme ou une autre d'immortalité. Ce n'était pas le cas des Sadducéens. Ils étaient matérialistes. Ils croyaient que l'âme meurt avec le corps et tout s'arrête là. Pourtant, en Israël, la grande majorité des docteurs de la loi, qu'il s'agisse des pharisiens, des enseignants de la parole de Dieu, croyaient dans la résurrection dans l'autre vie. La grande majorité des Juifs croyaient dans la résurrection et les docteurs de la parole croyaient dans la résurrection dans une autre vie. Alors, non seulement l'immortalité de l'âme, mais une résurrection physique d'une manière ou d'une autre dans l'autre vie. Et ils s'appuyaient sur des passages dans les Écritures comme Daniel 12, entre autres, que je vais vous lire, mais aussi des passages dans le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible. Et j'aimerais vous lire ce matin un passage dans Daniel 12, les versets 1 à 4. Si vous êtes familier avec les Écritures, tournez rapidement avec moi dans Daniel, à la fin des grands prophètes, Daniel chapitre 12. Autrement, je vais vous lire le passage. On est dans un passage prophétique. Je n'ai pas la prétention de vous expliquer chacun des détails de ce que je vais vous lire. Je veux attirer votre attention sur ce qui va être annoncé concernant la résurrection. D'accord? Alors, il s'agit d'un passage prophétique, Daniel 12, les versets 1 à 4. « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. » Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. On aurait l'impression d'entendre Jésus parler ou de lire la fin du livre de l'Apocalypse. Lorsque Jésus enseigne la résurrection, Jésus enseigne ce qui est enseigné à travers toutes les saintes Écritures. Daniel a vécu 600 ans avant la venue de Jésus. D'accord? Et lorsqu'on enseigne la résurrection dans l'autre vie, nous enseignons ce qui est enseigné dans l'ensemble des Saintes Écritures. La parole de Dieu est catégorique. Les Saintes Écritures sont catégoriques. Tous les hommes ressusciteront, soit pour entrer dans la gloire avec Dieu, soit pour être rejetés par Dieu. Vous irez lire la fin du livre de l'Apocalypse et gardez en tête le passage de Daniel qu'on vient de lire ce matin. La grande question d'après Jésus, alors que Jésus échange avec des gens qui ne croient pas, la grande question d'après Jésus, c'est est-ce que nous comprenons les Saintes Écritures et est-ce que nous comprenons la puissance de Dieu? Est-ce que nous comprenons ce que les Saintes Écritures enseignent sur ce qui nous attend de l'autre côté? Et est-ce que nous saisissons, nous comprenons la puissance de Dieu? Les Sadducéens ne comprenaient pas la parole de Dieu et ils ne comprenaient pas non plus la puissance de Dieu. Alors, ils viennent pour interroger Jésus, mais surtout pour le ridiculiser, d'accord? Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils viennent ridiculiser ce que Jésus enseignait, ce qui était généralement enseigné parmi les Juifs à cette époque-là, ce que les pharisiens même enseignaient. C'est vraiment impressionnant vers la fin à quel point des ennemis se rallient. On a vu ensemble, dans les deux dernières semaines, les Hérodiens qui font alliance avec les pharisiens, les Sadducéens vont faire alliance, mais en même temps, ils sont en train de narguer les pharisiens qui, eux, croyaient dans la résurrection. Alors, ils viennent pour ridiculiser ce que Jésus enseignait sur la résurrection et ils viennent en racontant une histoire pour montrer que la résurrection pourrait avoir des conséquences loufoques ou un peu ridicules. D'accord? Imaginez qu'on ressusciterait, voici ce qui pourrait se passer. Il y avait une loi dans l'Ancien Testament qui voulait qu'un homme marie la veuve de son frère pour assurer une descendance, pour préserver l'héritage et pour voir aux besoins de cette famille. Cette loi-là, ou des lois similaires, on en trouve un peu partout en Afrique et au Moyen-Orient. C'était une loi qui était là pour protéger des gens, pour protéger un héritage. Maintenant, les Sadducéens imaginaient des conséquences comiques. Il y a vraiment de l'humour et du sarcasme dans l'intervention des Sadducéens ici. Ils imaginaient des conséquences comiques à la résurrection. Si cette dame est veuve 6 fois et épouse les 7 frères, un après l'autre, de qui sera-t-elle l'épouse à la résurrection? Et là, ils sont crampés en deux. Mais voyez-vous, les Sadducéens, en arrivant avec leur ton moqueur, ne savent pas au fond de quoi ils parlent. Ils n'ont aucune idée de quoi ils parlent. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu et ils ne comprennent pas Dieu. C'est ça que Jésus leur dit. Il leur dit, les gars, avec votre ton moqueur, vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Qui êtes-vous pour prétendre comprendre les Saintes Écritures et comprendre la puissance de Dieu? Vous parlez de choses que vous ne saisissez pas. Vous parlez de choses que vous ne comprenez pas. Vous parlez de choses que vous ne connaissez vraiment pas. Jésus comprend la parole de Dieu et sa puissance, contrairement aux Sadducéens. Jésus, pendant les 3 années de son ministère, a démontré d'une manière inégalée qu'il comprenait la parole de Dieu, expliquant constamment l'Ancien Testament et ses accomplissements et des mystères parfois, des choses qui pouvaient sembler contradictoires dans l'Ancien Testament. Jésus vient dévoiler comment ça vient s'accomplir. Jésus a démontré avec une puissance inégalée qu'il comprenait la parole de Dieu et qu'il comprenait la puissance de Dieu parce qu'il l'a montré à travers son ministère. Dans quelques instants, les Sadducéens vont partir bouche bée. Regardez les versets 33 et 34. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Verset 33, verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Ils vont tenter une dernière percée, une dernière attaque, une dernière offensive. Mais dans quelques instants, les Sadducéens vont partir de là bouche bée, peut-être pas convaincus, mais réduits au silence, parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. Et les ennemis de Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont tenter une dernière attaque. Une dernière, puis Jésus va leur poser une question, ça va être la fin. Ils sont sans ressources. Et c'est compréhensible qu'ils n'arrivent pas vraiment à piéger Jésus. Voyez-vous, ils essaient de coincer le Fils de Dieu. Les Sadducéens sont là, ils se lancent dans une joute oratoire pour parler de choses qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne comprennent pas. Ils sont en train d'essayer de pincer, de coincer le Fils de Dieu. L'apôtre Jean nous dit au début de son évangile que Jésus est la parole de Dieu faite chair. Il est le Fils de Dieu incarné. Quand Jésus, au début de l'évangile de Matthieu, a été conduit dans le désert pour être tenté par le diable s'y est pris de toutes les manières qu'il était capable de concevoir. Et laissez-moi vous dire qu'il est pas mal plus brillant que vous et moi. Et il n'a jamais réussi à piéger Jésus. Mais ces comiques-là se présentent devant Jésus en pensant qu'ils vont le coincer. Ils ne réalisent pas à qui ils s'adressent. Ça fait 3 ans que Jésus enseigne la parole de Dieu. Partout où il va avec une autorité qui ébranle les gens, Matthieu répète à plusieurs reprises l'étonnement. Si vous avez lu déjà l'évangile de Matthieu, vous vous rappelez de cette expression. Les gens étaient étonnés, étaient émerveillés. Quand tu rencontrais Jésus, tu partais de là émerveillé, étonné de ce qui avait été fait, de ce qui avait été dit. Jésus enseignait avec une autorité, une sagesse inégalée, et il a fait des miracles en prenant autorité sur les maladies, les démons, les éléments de la nature, même la mort. Jésus connaît la parole de Dieu puisqu'il est lui-même la parole de Dieu, nous dit l'apôtre Jean. Il connaît la puissance de Dieu parce qu'il vient de Dieu, parce qu'il est Dieu. Je vais vous lire 4 versets dans l'évangile de Jean, d'accord? Ce que j'essaie de faire ce matin, c'est de sortir de l'épisode où on est. Où vous avez ce personnage, un homme, Jésus, qui est là, qui est devant des docteurs. Et j'essaie de faire ressortir la scène en réalité, ce qui se passe. Qui est ce Jésus qui est devant ces Sadducéens? Et la folie de ces hommes qui essaient de s'en prendre à lui. Parce que voyez-vous, lorsque nous argumentons avec la parole de Dieu, lorsque nous argumentons avec Dieu, lorsque nous méprisons ce que la parole de Dieu enseigne, nous faisons preuve de la même folie. La même folie. Je vous lis 4 versets au début de l'évangile de Jean. Voici ce que Jean avait compris de Jésus, du personnage. D'accord? Il a écrit ça après que Jésus soit mort et ressuscité, qu'il soit parti sous l'inspiration de l'Esprit-Saint. Il fait une drôle d'introduction à son évangile. Et là, il veut nous montrer Jésus dans sa gloire, ce qu'il a retenu de cette personne. Voici ce qu'il dit. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, lorsqu'on lit la Genèse, nous savons que Dieu créa par sa parole. Comme un artiste qui prend un tableau, qui conçoit quelque chose et qui le jette sur la toile. Au verset 14, toujours dans Jean 1, voici ce qui est dit pour savoir, mais qui est cette parole? Et la parole a été faite chair, elle s'est incarnée, elle est devenue homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà qui était Jésus de Nazareth. Il était la parole de Dieu présente au commencement, par qui toutes choses ont été créées. Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Il est la parole de Dieu incarnée. La joute oratoire dans laquelle les Sadducéens se sont engagés est profondément injuste. Ce sont des enfants qui ont décidé qu'ils allaient expliquer à Einstein en quoi il s'est trompé sur la théorie de la relativité. Ils ne pouvaient pas gagner, et c'est la même chose aujourd'hui. Te lancer dans un combat oratoire contre celui qui est la parole de Dieu faite chair, c'est de la folie. En fait, la seule manière qu'ils vont réussir à avoir Jésus, c'est par la violence. Dans quelques instants, ils vont abandonner cette stratégie-là, comprenant qu'ils ne peuvent pas gagner un argument avec lui. Ils vont se résoudre uniquement à s'en prendre à lui par la violence. Et sans s'en rendre compte, encore une fois, ils vont perdre. Parce qu'ils vont accomplir les desseins de Dieu en arrêtant cet homme et en le crucifiant. Et l'ironie dans tout cela, c'est que lorsque Jésus va se retrouver devant le Sanhédrin, devant les chefs de la religion juive, Jésus va les provoquer encore une fois. C'est lui qui maîtrise toute la situation en parlant encore une fois de la puissance de Dieu d'une manière qu'ils ne comprennent pas et qui va les scandaliser. Je veux juste vous lire quelques chapitres plus loin, d'accord? On est dans cette semaine-là. Les choses vont vite. Les événements sont intenses. Dans Matthieu 26, verset 62, voici ce qu'on lit. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? » Alors que Jésus comparait devant le Sanhédrin, « Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? Ne vas-tu pas te défendre? » Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Écoutez bien ce que Jésus répond. « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme. » Et Jésus employait régulièrement cette expression pour parler de lui. « Assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et de soufflet en disant, « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » La folie et la violence, c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour s'en prendre à Jésus. Et au moment où ils vont dire qu'il est en train de blasphémer, ils vont simplement démontrer qu'ils ne comprennent toujours pas la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu, qui peut utiliser tout le mal que les hommes essaient de faire pour accomplir ses desseins et en faire du bien. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils vont crucifier celui qui est venu pour les racheter de leurs péchés. Mais Jésus comprend la parole de Dieu, puisqu'il est la parole de Dieu, et il comprend la puissance de Dieu, comme nous ne la comprendrons jamais. Jamais. Revenons dans Matthieu 22. Jésus savait de quoi il parlait lorsqu'il parlait de la résurrection. Il parlait de choses qu'il comprenait parfaitement. C'est par lui que Dieu a créé toutes choses. Ce n'est pas compliqué, Jésus a créé la résurrection. Est-ce qu'il sait de quoi il parle? C'est lui qui l'a créé. Parce que Dieu nous dit dans sa parole que c'est par lui que Dieu a créé toutes choses. C'est lui qui a créé la résurrection. Est-ce qu'il sait de quoi il parle? Et je prends tout ce temps ce matin. Je sais que je n'ai pas adressé encore ce que Jésus nous dit sur la résurrection. Je n'ai pas adressé encore la preuve qu'il apporte en citant un passage de l'Ancien Testament. Je prends le temps pour souligner la grandeur et l'autorité de Jésus-Christ parce que là où on est rendu dans le récit de Matthieu, c'est ça qui est la vraie question ici. Matthieu est en train de nous montrer la tension qui monte entre les ennemis de Jésus et Jésus, et il veut nous montrer qu'il tente désespérément d'attaquer son autorité, de le discréditer aux yeux du peuple qui avait beaucoup d'estime pour lui à ce moment-là. C'est ça l'enjeu qui est ici. Ce n'est pas la résurrection. L'enjeu, c'est l'autorité de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ sait de quoi il parle lorsqu'il parle des Saintes Écritures, lorsqu'il interprète les Saintes Écritures? Est-ce qu'il sait ce qu'il dit lorsqu'il dit qu'il est le Messie? Ou est-ce qu'il parle à travers son chapeau? Est-ce qu'il sait ce qu'il dit lorsqu'il dit qu'il est le Sauveur des hommes? Ou est-ce que c'est un charlatan qui parle à travers son chapeau? C'est ça l'enjeu ici. L'enjeu, c'est de savoir, est-ce que Jésus comprend vraiment les Saintes Écritures? Est-ce qu'il comprend aussi vraiment Dieu et sa puissance? J'ai une proposition pour nos amis sceptiques. J'aimerais vous faire une proposition. Je sais qu'il y a plusieurs jeunes gens dans la salle qui avaient des doutes sur Dieu, des doutes sur Jésus-Christ, et des moins jeunes aussi. Vous avez des doutes, vous écoutez les prédications, ça peut être intéressant quand ce n'est pas trop endormant. Vous regardez la vie de vos parents, la vie de vos proches, la vie de vos amis qui ont la foi, de votre conjoint possiblement. Vous respectez leur foi comme un bon Québécois, on respecte tout le monde. Mais en même temps, vous gardez un scepticisme de bon aloi. En homme et en femme moderne, il ne faudrait quand même pas croire n'importe quoi. C'est vrai? Alors, j'ai une proposition pour vous. J'aimerais ça vous proposer de prendre les prochaines semaines pour lire les 4 évangiles. Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas arrêté pour aller rencontrer Jésus de vos propres yeux, de vos propres oreilles? Qu'est-ce que vous diriez de prendre les prochaines semaines pour lire les 4 évangiles et aller rencontrer Jésus-Christ? J'ai confiance en lui plus que dans toutes les prédications que je pourrais faire dans ma vie. Alors, je vous propose de faire une démarche honnête avec lui, s'il existe. De prendre le temps de lire Matthieu, Marc, Luc et Jean. Est-ce que je peux vous suggérer de le faire dans une attitude d'humilité? Après tout, la grande question, c'est de savoir, est-ce que ça, c'est vraiment la parole de Dieu? Est-ce que Dieu existe vraiment? Bien, quand on se pose cette question-là, il y a une certaine humilité qui est de rigueur. J'aimerais même aller un petit peu plus loin. Vous proposez de le faire dans une attitude de prière. Après tout, si les chrétiens ont raison, ils devraient être capables de vous parler à travers sa parole. C'est ce qu'on dit à chaque semaine ici. Et je respecte vos doutes. Je respecte votre scepticisme. Je respecte même le fait que vous avez de l'admiration pour vos parents, peut-être, pour votre conjoint, pour un ami chrétien, mais vous dites, c'est pas pour moi, tu sais, je suis quand même quelqu'un de moderne, moi. J'ai du respect pour ça. Mais je vous propose de le faire dans une attitude de prière et de dire à Dieu, « Dieu, si tu existes, voudrais-tu me faire rencontrer Jésus-Christ? » Le gars qui prêche dans cette église-là, semaine après semaine, pleure en avant quand il nous parle de Jésus. Es-tu là? Ou s'il est vraiment cinglé comme il a de l'air, le bonhomme en avant? J'ai confiance en Jésus, plus que dans toutes les prédications que je vais pouvoir vous livrer dans toute ma vie. Alors, je vous fais cette proposition et j'aimerais savoir de vos nouvelles. J'espère qu'il y en a qui vont relever le défi. Allez lire les évangiles. Dites à Dieu, si tu es là, parle-moi. Si Jésus est aussi grand qu'il l'est, j'aimerais être émerveillé par lui. Et donnez-moi des nouvelles de ça, d'accord? J'attends de vos nouvelles. Vous me direz ce que ça donne. Mais revenons dans notre passage ce matin. Dieu a la puissance de nous transformer merveilleusement. C'est ce que Jésus nous dit dans son passage. Jésus nous dit qu'à la résurrection, nous serons transformés comme nous ne sommes même pas capables de l'imaginer, d'une manière qui dépasse notre imagination. Nos relations seront transformées et nous serons comme les anges de Dieu dans le ciel. Qu'est-ce que Jésus veut dire lorsqu'il dit que nous serons comme les anges de Jésus dans le ciel? Est-ce que la comparaison s'arrête à l'idée qu'on va être célibataire? Est-ce que Jésus est en train de nous dire tout simplement, « By the way, profitez-en, parce que de l'autre bord, vous allez tous être célibataires. » C'est ça qu'il est en train de dire. Je pense que la comparaison va plus loin. Je ne peux pas vous dire jusqu'où. Mais je vous avoue que ça me fait toujours sourire, parfois ça m'attriste, quand je vois des films annoncés où l'image qui nous est projetée des anges, c'est qu'ils envient nos histoires amoureuses. Comme si de l'autre côté, c'était plus plate qu'ici. Et encore une fois, je me dis, ils ne comprennent pas la puissance de Dieu, ni les Saintes Écritures. La seule chose qu'ils ont enviée de nous, c'est que nous avons plongé les regards dans l'Évangile. C'est la seule chose. Je ne sais pas jusqu'où va la comparaison. Est-ce que Jésus est vraiment juste en train de nous dire qu'on va être célibataire de l'autre côté, qu'on va être époux de Christ, qu'on va être marié à Christ? Mon impression à moi, c'est que la comparaison va un peu plus loin que ça. Je ne peux pas vous le dire. Je ne le sais pas. Je ne peux pas vous dire jusqu'où ça va. Ce que je sais, c'est que nous ne sommes pas capables de concevoir la beauté qui nous attend de l'autre côté. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 15. L'apôtre Paul va simplement déclarer que ces choses sont mystérieuses pour nous. Il a une attitude humble. Personnellement, quand je lis ça, ça me fait rêver. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35. Et je vais vous lire jusqu'au verset 44. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune. Autre l'éclat des étoiles, et même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé, écoutez bien, corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Permettez-moi de le dire ainsi. Vous avez de l'imagination et vous prenez le temps de rêver en écoutant des films fantastiques et en lisant des romans fantastiques. Et c'est vrai que c'est merveilleux. Gardez-vous un peu de rêverie et d'imagination pour rêver à ce qui nous attend de l'autre côté. Ce sera plus fantastique qu'Avatar, je peux vous le garantir. Ce sera plus merveilleux que n'importe quel film qu'un homme peut imaginer. Tout ce que l'homme imagine est inspiré de la création de Dieu. Alors, attendez que Dieu sorte son remake de la création. Ça va être hot. Et je ne devrais pas dire remake. Je devrais dire que la terre telle que nous la connaissons, c'est un brouillon. Attendez qu'il sorte le chef-d'œuvre. J'aime tellement l'expression de Keith Green lorsqu'il dit que si Dieu a créé la terre en 6 jours, j'ai hâte de voir la maison qu'il me prépare depuis 2000 ans. Voyez-vous, les hommes sont créatures de Dieu. Ils utilisent toute leur science, tout leur talent, toute leur imagination pour concevoir des choses absolument fantastiques. Et c'est vrai que c'est merveilleux. Ça fait rêver. Mais comprenez-vous que Dieu a une palette de couleurs qui dépassera tous les ordinateurs que Cameron pourra utiliser pour faire des films? Dans le film d'Avatar, le héros Jake Sully est paraplégique. Et mon fils, en petit philosophe, me dit « Hey, papa, c'est un peu comme la résurrection, hein? » Jake Sully est paraplégique et il reçoit un corps nouveau. Il est comme transféré dans le corps d'un Navi, en pleine forme et puissant, plus grand, plus puissant que ce qu'il était avant, complètement restauré. Voyez-vous, tout ce monde imaginé par James Cameron et toute son équipe est fantastique, est féerique, c'est vrai, mais c'est incomparable avec ce que Dieu est en train de faire. Ça ne peut pas se comparer parce que tout ce qu'il y a là-dedans est inspiré de la création de Dieu. Mais l'auteur, le véritable auteur, l'artiste qui a conçu la terre où nous habitons, qui a conçu tout ce qu'il y a de magnifique que nous pouvons voir, tout ce qui nous inspire nous-mêmes à créer des œuvres très belles, cet auteur-là nous dit qu'il prépare quelque chose de fantastique et de merveilleux. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller voir le film Avatar. Je suis en train de vous dire de plonger les regards dans les Écritures et de comprendre que tout ce que vous allez lire et voir de fantastique n'a rien de comparable avec ce que Dieu est en train de nous réserver de l'autre côté. Je ne sais pas à quel point ça va être beau. Je sais que sa palette de couleurs est plus riche que celle de tous les artistes sur la terre. Je sais que les effets spéciaux qu'il va y avoir de l'autre côté, Cameron ne pourra jamais les faire avec un ordinateur, je vous l'assure. À la résurrection, nous dit Jésus, les hommes et les femmes seront comme les anges de Dieu. Et ces choses-là devraient nous faire rêver plus que tous les films qu'on pourra voir. Lorsqu'on va voir un film, lorsqu'on lit un roman fantastique, c'est une évasion pour quelques instants, mais rêver de l'éternité, c'est orienter notre vie sur le ciel. Ce n'est pas une évasion. C'est orienter notre vie sur ce qui compte parce que nous attendons un monde fantastique et merveilleux. Nous attendons un jour glorieux. À la résurrection, les hommes et les femmes seront comme les anges de Dieu. Enfin, Jésus prend un argument qui peut nous sembler un peu simple, je reviens dans mon passage, pour démontrer la résurrection. Il veut démontrer aux Sadducéens que la résurrection est présente dans l'Ancien Testament Et Jésus cite une phrase qui est répétée à plusieurs reprises, d'accord? Lorsqu'il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob », bien honnêtement, quand je lis cet argument-là de Jésus, avec mes yeux à moi, je me dis « moi j'aurais cité Daniel à sa place ». Le passage que j'ai lu tantôt, il me semble que c'est comme plus clair, tu sais. Mais en même temps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les Sadducéens accordaient plus d'importance au Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible, où cette phrase revient à plusieurs reprises. Et j'ai l'impression que Jésus est sensible à cela, puisque Jésus parle de résurrection, parle des anges auxquels les Sadducéens ne croient pas, et prend le temps d'aller citer un passage des Écritures qu'eux autres honoraient. Alors, je crois qu'il y a de ça dedans. Jésus est sensible à leur croyance pour leur démontrer que la résurrection est bel et bien présente dans l'Ancien Testament. Mais je crois qu'il y a plus que ça aussi. Je crois qu'il y a une autre raison. Voyez-vous, Dieu avait fait des promesses extraordinaires à Abraham, lui promettant qu'en lui, toutes les nations de la terre seraient bénies. Abraham était le père des Juifs, mais Dieu lui a promis qu'il serait aussi, dans un sens, le père de toutes les nations, parce que des gens de toutes nations, Juifs et non-Juifs, viendraient et seraient bénis en lui. Cette promesse s'accomplit en Jésus-Christ, nous le savons, hein, parce que nous vivons après la venue de Jésus-Christ. Jésus est un descendant d'Abraham, comme nous le dit Matthieu dans sa généalogie, et il nous a ouvert les portes du salut à tous les hommes. Et à la fin de son évangile, il va envoyer ses disciples faire des disciples de toutes les nations de la terre. Donc, la promesse faite à Abraham, qu'en lui, toutes les nations de la terre seraient bénies, s'accomplit en Jésus-Christ, parce qu'en Jésus, des hommes de toutes les nations peuvent devenir des fils dans la foi d'Abraham. Mais Abraham est mort. Il n'a pas vu la promesse s'accomplir. Est-ce qu'il va la voir de ses yeux? Abraham est mort. Mais Jésus nous assure qu'Abraham n'est pas mort en définitive. Il nous dit que Dieu est le Dieu d'Abraham et qu'il est le Dieu des vivants, non le Dieu des morts. Ainsi, Abraham est toujours vivant, comme tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Madame Keefe, M. Beau, M. Mercier, bien vivant dans la présence de Dieu. Abraham est vivant aujourd'hui et tous ceux qui croient en Jésus-Christ le verront un jour. Je vais terminer en vous citant un passage dans Matthieu 8. Tournez avec moi, s'il vous plaît. Dans Matthieu 8, verset 11. Voici ce que Jésus dit. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, c'est nous, les païens, les non-juifs, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Dieu est le seul qui peut prétendre toujours honorer sa parole. Dieu a promis à Abraham qu'il le bénirait et qu'il serait son Dieu. Il est encore son Dieu aujourd'hui, même si Abraham a été enterré physiquement. Parce qu'Abraham vit actuellement. Et un jour, tous ceux qui croient en Jésus-Christ seront à un festin avec Abraham, Isaac et Jacob. De quoi on aura l'air de l'autre côté, je ne sais pas exactement. Comment est-ce que nous serons lorsque nous serons ressuscités? Bien franchement, je n'en ai pas une très, très bonne idée. Je suis juste capable de rêver. Mes chers amis, si la majorité des gens sur la terre croient intuitivement à l'immortalité de l'âme humaine, moi j'ai choisi de faire confiance à Jésus-Christ pour la grande traversée. Parce que Jésus comprend les Saintes Écritures et comprend la puissance de Dieu. Et c'est en plaçant ma foi en lui que je me prépare à cette grande traversée. Je ne m'avancerai pas intuitivement, mais j'ai la ferme conviction que Jésus-Christ m'ouvre les portes et qu'il me prépare une vie après incomparable à tout ce que les artistes de la terre pourraient imaginer ici-bas. J'espère que vous allez faire le même choix que moi. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, des fois je suis gêné de voir tout l'émerveillement que j'ai devant un tableau lorsque je vais dans un musée, ou les palpitations que j'ai en écoutant un film fantastique. Je suis gêné, Seigneur, de voir qu'ensuite ta parole me semble fade parce que je ne prends pas tes mots au sérieux. Et au contraire, Seigneur, je veux voir dans tout ce que les artistes peuvent concevoir simplement un avant-goût de ce que toi, l'artiste par excellence, tu es en train de préparer. Seigneur Jésus, je t'ai rencontré, je t'ai écouté, j'ai lu tes évangiles et j'ai connu que tu venais de Dieu. Et Seigneur, si la majorité des hommes sur la terre croient intuitivement que nous sommes immortels, j'ai décidé de faire confiance à celui qui comprend les Saintes Écritures et qui connaît la puissance de Dieu. J'ai décidé de faire confiance à la puissance de ta résurrection, de ta mort sur la croix et de ta résurrection pour avoir confiance en ma résurrection, Seigneur Jésus. J'ai décidé de faire confiance à ton sacrifice sur la croix pour le pardon de mes péchés et faire confiance à ta parole parce que tu m'as promis que tu allais me préparer une place et que lorsqu'elle serait prête, tu viendrais me chercher, Seigneur. Plus que tout autre, tu respectes ta parole. Et Seigneur, si le temps court encore 2000 ans après ton départ, ce n'est pas que tu tardes à accomplir tes promesses, c'est que tu uses de patience envers les hommes. Dans ta grâce, permets, Seigneur, que personne dans cette salle ne se confie pas en toi, Seigneur, mais que chacun dans cette salle vienne te rencontrer et connaître que tu es le Fils de Dieu, se confie en toi pour l'éternité. Seigneur Jésus, je veux t'adorer ce matin. Je veux déclarer ta beauté, ta grandeur. Je veux déclarer, Seigneur, que ta parole, que les Saintes Écritures, c'est la parole de Dieu. J'ai connu Jésus-Christ. Amen.